6h03, vendredi 9 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est une autre superbe journée qui se dessine devant nous avec un maximum de 23 degrés. Et c'est du soleil, il n'y a pas autre chose à dire. Pour ce qui est de demain samedi, 24 degrés. Alternance de soleil et de nuages à noter. Et puis dimanche, autour de 20 degrés. Donc, il n'y a pas de pluie durant la fin de semaine. Vous aurez peut-être des périodes un peu plus nuageuses, mais vraiment, là, aujourd'hui, demain, ça va faire quoi, une semaine, là, maintenant qu'on a des températures exceptionnelles? Ben, c'est tant mieux. C'est, je dirais, une occasion idéale pour sortir, prendre l'air, ventiler. Ça fait du bien, là. Après, disons, un hiver qui n'est pas toujours agréable, des températures froides, puis surtout avec ces mesures de confinement. Faisons le point sur ça, d'ailleurs, depuis les annonces de l'après-midi. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau à dire hier, là, dans le point de presse de 17 heures. Alors, d'abord, dans les zones comme Québec, l'Outaouais, la Beauce, on prolonge donc les mesures qui ont été déjà imposées. Et ça, c'est peut-être là en raison, pas peut-être, là, c'est en raison de l'explosion des cas, puis c'est une situation qui est très grave, et notamment dans la capitale nationale. Pour ce qui est de Montréal, c'est sous contrôle relatif, mais on décide quand même, pour Montréal et Laval, donc, de ramener le couvre-feu à 20 heures. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une source de frustration pour bien des gens. Puis, tu sais, quand je regarde des journées comme hier, puis ce qu'on prévoit aujourd'hui, là, y a bien des gens qui ont besoin à Montréal, parce qu'ils vivent dans un appart, de sortir, de prendre l'air. Rappelons-nous un peu l'été dernier. Pas tout le monde là, qui a une cour arrière, puis c'est pas tout le monde là, qui a assez d'espace. Alors, beaucoup de gens qui, avec le beau temps puis le changement d'heure, ben, veulent profiter du temps dans un parc ou même près de chez eux. Mais 20 heures, ça vient vite. Il y a des gens qui travaillent, puis l'été, on le sait, ou en fait, même le printemps, il y a des compagnies qui vont travailler jusqu'à 6 heures, 7 heures, aménagement paysager, par exemple. Tout ça pour vous dire que pour les gens qui ne sortent pas, c'est pas grave, mais il y a c'est pas juste pour des jeunes, là. Il y a des gens qui sont quand même assez contrariés de ça. Puis ce qui n'aidera pas, c'est que c'est vrai pour Montréal-Laval, mais si vous êtes à Boucherville-Longueuil, c'est jusqu'à 9h30. Fait que là, tu sais, d'accord. Et on comprend pourquoi. Et on le fait de façon préventive, nous a-t-on dit, pour ne pas mettre, disons, une pression encore plus forte sur le réseau de la santé en faisant exploser des cas. Puis d'ailleurs, on ne sait pas trop comment ça va évoluer à Montréal. Alors, quel sera le portrait dans une semaine? On va se retrouver comme à Québec, puis là, des fermetures de commerce non essentielles. Point d'interrogation, on ne le sait pas. Alors ça, c'est, je vous dirais, la première chose qu'il faut retenir. Pour ce qui est de la vaccination, ça fonctionne bien. En tout cas, la première journée, AstraZeneca. Donc, sans rendez-vous pour les 55 ans et plus. Parfait. On verra aujourd'hui la deuxième journée. Il y a eu, j'en ai parlé au début de l'émission, là, appelons ça des ajustements et qui devront se poursuivre aujourd'hui. Alors, pour vous faire vacciner, ce n'est pas votre date de naissance qui est importante, c'est l'année de votre naissance. Donc, si vous êtes né en 1966, vous avez le droit de vous faire vacciner, même si votre anniversaire, c'est en septembre. Et je sais que dans des centres, hier, on a dit aux gens, vous reviendrez. Quelqu'un m'a écrit, entre autres, sa fête, c'est dans 2 semaines. Il ne faut pas venir fou, là. La personne a 55 ans, elle est prête à avoir le AstraZeneca, go! Puis on passe après ça un autre appel. Donc, la vitesse de vaccination, c'est à peu près 45 000 doses. Je vais aller voir les chiffres tantôt, là. Ce sont les dernières infos qu'on a. Alors, il y a encore des plages de disponibles pour la vaccination. Et je pense qu'on peut avoir 2 ou 3 préoccupations, je vous dirais, concernant la vaccination. Que la cadence, puis que les doses entrent, puis go, là, on continue. Mais d'abord, il y a, et je le disais hier matin, des secteurs à Montréal où c'est extrêmement difficile de faire sortir les gens puis les amener donc à se faire vacciner. Je ne reprendrai pas tout ce que j'ai dit hier, mais en gros, là, il y a une barrière linguistique dans des quartiers à Montréal où c'est multiethnique, des gens qui vivent seuls, des gens qui n'ont même pas de téléphone, qui n'ont pas Internet et qui sont comme déconnectés. Puis actuellement, on fait appel à des brigades pour se déployer sur le terrain. Puis malheureusement, les infos ne circulent pas toujours pour être capable de cibler les endroits. Puis là, ce n'est pas la police du vaccin qui va cogner chez vous, là. ce sont des gens de la Croix-Rouge, par exemple, qui vont ou d'organismes communautaires, qui vont vous voir puis qui vous disent, parce que c'est l'autre chose, là, d'aller se faire dépister. Les gens, des fois, peuvent avoir des symptômes, puis ils hésitent. Ils veulent pas. Il vaut mieux continuer à aller travailler. On l'a vu depuis le début. Ah. Donc, comment tu rejoins les gens qui sont plus difficiles à atteindre? Et ça, c'est un défi pour accroître la couverture, si on veut, de la santé publique, la couverture vaccinale. La deuxième chose, ça concerne les employés du réseau de la santé. Radio-Canada nous dit que le nombre de travailleurs de la santé absents en raison de la COVID a augmenté. On parle de 5 000 personnes à travers le réseau. Ça a déjà été plus que ça, là, mais 5 000, c'est du monde. Il y a un problème de vaccination pour les employés du réseau de la santé. Quand je dis un problème, là, il y a d'abord des gens du réseau qui veulent se faire vacciner, puis me dit-on, ça a été compliqué. Mais, on ne se mettra pas la tête dans le sable, il y a beaucoup de gens du réseau de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Hier, je regardais des tableaux de vaccination là, pour les employés, préposés, infirmières, bon, des gens là, qui sont vraiment première ligne. Là. Et des pourcentages d'employés vaccinés selon, par exemple, les établissements CHUM, une résidence pour personnes âgées, un CHSLD. Ben, il y a des endroits, là, c'était 15 % seulement des gens qui étaient vaccinés. C'est étonnant, là. D'autres endroits, 30 % 40 % D'autres endroits, beaucoup plus élevés. Dans genre de 75 % Fait que, on peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais c'est quand même, tu sais, un équipement de protection. Il me semble que le vaccin s'ajoute à cela. La preuve, tu as 5 000 personnes là, qui sont sur le carreau en raison de la COVID. Et pour ce qui est de la pression sur le réseau de la santé, il y a un bon texte, encore une fois, d'Aaron Derfeld ce matin dans The Gazette, où on donne des exemples très clairs de l'effet. Là. Puis on a beau nous dire qu'à Montréal, ça tient le coup, on a délesté, là, puis on continue à délester, et le nombre de lits pour des interventions diminue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de personnel. Ça recommence, puis je peux très bien comprendre là, la fatigue, l'épuisement des gens du réseau. On donne l'exemple de Maisonneuve-Rosemont, qui a une capacité de 16 lits aux soins intensifs, mais qui manque de personnel. Ce qui fait que des patients qui normalement auraient été traités à Maisonneuve-Rosemont sont envoyés à Santa Cabrini. Et l'effet domino amène qu'on est passé de 14 à 34 patients en deux jours à Santa Cabrini. Alors, ça pour vous dire que ça devient là, complexe. Puis malheureusement, il y a encore ce qu'on appelle des cas non-COVID qui vont voir leur chirurgie attendre. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, ça nous donne un peu le portrait ce matin. Je dis bien ce matin parce que dans quelques jours, la semaine prochaine, on ne sait pas exactement. Puis on va être en mesure peut-être d'avoir aussi un portrait plus juste avec l'impact du congé de Pâques. Alors, montée de cas, d'hospitalisation, puis l'effet des branches de Pâques, ça peut prendre encore quelques jours avant qu'on soit capable de le mesurer. Juste vous dire, ça va être intéressant, un avis du Centre américain de contrôle des maladies, là, le CDC. Souvenez, au début, il y a un an, de cette pandémie-là, on lavait les contenants d'épicerie, les boîtes de soupe, puis les boîtes de... Tu sais, tout ce qu'on ramenait, là, les surfaces, on le fait encore beaucoup, avec les serviettes, les lingettes humides. Là, ce qu'ils nous disent, après avoir analysé tout ça, un an de recul, un an plus tard, que oui, il y a un risque d'infection à partir de surfaces, mais que ce risque-là, d'après ce qu'ils ont pu constater, demeure relativement faible. Alors, peut-être bien de, comme on dit, nettoyer votre aire de travail, mais en même temps, c'est peut-être pas aussi, disons, préoccupant que ce l'était, par exemple, à la même période l'an dernier. Vous dire également qu'en Europe, on a décidé que les gens de moins de 55 ans qui ont reçu leur première dose d'AstraZeneca vont obtenir la deuxième avec Pfizer ou Moderna? Il y a bien des gens qui m'ont posé la question. J'avais posé la question au Dr Arruda. Puis je lui disais, vous allez faire quoi? Est-ce que c'est possible une deuxième dose avec un autre vaccin? Il m'avait dit, les études sont en cours. Beaucoup de médecins qui ont des doutes, là, qu'on puisse faire ça. Mais en tout cas, en France, c'est, semble-t-il, la recommandation qui est faite pour les gens qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca pour les moins de 55 ans. Et puis, dans Le Devoir, ce matin, il y a des cas d'éclosion dans les écoles, parce qu'on sait que les deux principaux secteurs, là, travail et école. Et la pénurie d'enseignants, pour toutes sortes de raisons, il y a une pénurie à la base, mais là, vous avez des enseignants qui quittent, il y a des enseignants qui sont malades, bon. Alors, il y a une directrice d'école de Laval qui a donné le mot d'ordre à son personnel de cacher la présence d'infection dans son établissement pour éviter de faire peur aux suppléants. Donc, cas de COVID, on ne le dit pas, parce que si on le dit, la personne qui vient pour la suppléance va se pousser en courant. Dans un message envoyé à son équipe, que Le Devoir a obtenu, cette directrice dit qu'il vaut mieux ne pas inscrire que les demandes de suppléants sont dues à des cas de COVID. Ça pourrait faire peur. Et c'est donc un autre élément qui vient comme créer certaines tensions. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur le manque de transparence dans les écoles souvent. Tu sais, oups, il y a une classe qui est touchée, on ne le dit pas trop pour faire peur au monde, puis de gérer l'anxiété. Sauf que ça crée un malaise quand ça finit par se savoir. Puis là, évidemment, pas moyen de savoir quelle école, semble-t-il. Ça a été décrié par le centre de services scolaires parce qu'ils disent que c'est pas une pratique qui est acceptable et ça devrait pas se faire. Maintenant, sur un autre front, ça, c'est un sujet intéressant. Actuellement, il y a une folie immobilière flambée des prix des maisons, là, puis à coût de 100 000, 200 000, 300 000 au-dessus de l'évaluation. C'est plus un marché normal, là, c'est carrément en feu. Et là, les dirigeants de banques commencent à dire au gouvernement, faut intervenir là, pour calmer ça. Et le bureau du surintendant des institutions financières, qui est là, lui, pour justement regarder tout le système des banques au Canada, dit qu'il faut rendre le crédit hypothécaire un peu plus complexe pour calmer le monde. Parce que les taux actuels sont très, très bas. Puis je pense qu'on va en reparler avec Pierre-Yves, là. Mais le bureau propose de fixer à 5,25 le taux d'intérêt qui sert à évaluer la capacité de payer. Autrement dit, êtes-vous capable demain matin d'assumer là, un taux d'intérêt hypothécaire à 5? Là, vous payez 2%, là, je tourne les coins ronds, là. Demain matin, ça double. Ça passe de 2 à 4. Êtes-vous encore capable de payer votre hypothèque? Et c'est le calcul qu'on veut faire pour restreindre le crédit. Puis ça arrive de temps en temps, on l'a déjà vu, là, réduire le nombre d'années, puis faire des calculs pour être certain que les gens ne vont pas se surendetter, puis que s'il y a une fluctuation à un moment donné des taux, même si ce n'est pas ça qui est envisagé, bien, que les gens se retrouvent avec, un couteau sur la gorge, puis la maison qui est pratiquement perdue. Alors, un test beaucoup plus sévère pour ce qui est des hypothèques. On va parler de transport en commun ce matin. M. Tremblay de la STM va venir nous voir. J'ai beaucoup de questions. Hier, je soulevais toute la préoccupation des chauffeurs, pas que de Montréal, là, mais Laval, Longueuil, transport adapté. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai entendu la question qui a été posée au point de presse et le Dr Arruda a répondu, là. Mais sérieusement, là, c'est bien difficile à comprendre que les chauffeurs d'autobus ne fassent pas partie maintenant des travailleurs essentiels. Puis des chauffeurs qui font du transport adapté, qui sont en contact avec des gens qui peuvent être donc malades. Puis t'as beau me dire que tu as un masque, puis tu as des protections de plexiglas, puis peut-être que statistiquement, tu n'as pas assez de cas, mais sérieusement, là, il me semble que ce serait comme logique de pouvoir vacciner les chauffeurs d'autobus, Montréal, Laval et les autres également. Aussi dans Le Devoir ce matin, il semble que Québec n'a pas l'intention d'intervenir pour restreindre la publicité des VUS. Alors, le ministre Benoît Charrette ne veut pas mettre de contraintes pour ce qui est des camions légers, des véhicules utilitaires sport. On sait que c'est ce qui se vend le plus au Québec. On sait aussi, puis là, des fois, disons que la notion de VUS est un peu élastique, là, mais la consommation de pétrole continue d'augmenter. Puis là, il y avait des lobbies qui disaient, ben justement, on devrait faire en sorte de ne pas faire la pub, la promotion de ces véhicules. Et le gouvernement a dit, oubliez ça, là. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, c'est normal, dans le sens où on vit dans une société, c'est pas un produit interdit, là, pas un produit illégal. Puis là, tu peux faire plein d'autres campagnes ou d'autres mesures, là, pour... Mais c'est actuellement ce qui est populaire. Alors, c'est intéressant quand même à lire. Et il y a aussi un texte dans La Presse concernant la députée Catherine Fournier qui a été victime de harcèlement de la part d'un citoyen, un de ses nombreux fêlés là, qui n'ont pas de vie et qui viennent emmerder la vie des politiciens. Puis il y a un bon nombre de politiciens qui ont levé la main en disant « Nous quittons, on ne veut pas de renouvellement de mandat. » Je pense à Parenteau, à Verdun, je pense à d'autres. Là. Et qui donnaient entre autres, c'était pas la seule raison, là, mais c'est une option d'envie de te faire écœurer. Alors, dans le cas de Mme Fournier, ça a commencé à partir de l'été 2019. C'est un homme de 41 ans. Et il habite à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Et il a été vu une première fois par les policiers. Puis là, il lui dit « Non, non, on va rester tranquille. » Puis pas longtemps après, ça a recommencé. Et finalement, bon, il a été condamné à faire 200 heures de travaux communautaires, interdiction totale d'accéder aux réseaux sociaux pendant une période de 3 ans. Et c'est important. Il devrait y avoir zéro tolérance face à des gens qui menacent, qui insultent, qui intimident. Bloquer quelqu'un parce qu'il t'insulte, une affaire. Mais quand ça devient maladif puis du harcèlement, t'es pas obligé de vivre ça pantoute. Et plus il y aura des plaintes, plus les coucous vont se faire ramasser. Mieux c'est, je pense, pour l'équilibre de tout le monde. Et un mot également sur le procès du policier Derek Chauvin qui est accusé d'avoir tué George Floyd. Hier, j'ai écouté le témoignage du médecin, un expert, là, le docteur Tobin, qui est un expert là, sur tout ce qui concerne les poumons, les voies respiratoires, puis il a dit, écoutez, il est mort étouffé. Il est mort parce qu'on l'a privé d'oxygène. Et peu importe ses antécédents médicaux, il est mort parce qu'on a coupé l'air, parce que la pression était trop forte. Il était coincé sur l'asphalte, puis il y avait pression du policier. Alors, l'histoire des antécédents médicaux, c'est pas, là, quand on regarde les images, là, on n'est pas face à quelqu'un qui a une arythmie. On est face à quelqu'un à qui on enlève l'oxygène puis qui est en train de mourir. Et le fait qu'il a pris de la drogue, a dit le docteur Tobin, ça aurait été une autre forme de réaction. C'est pas un gars, là, qui fait une surdose de fentanyl. C'est carrément, et c'est peut-être, beaucoup ont dit ça hier, que c'est le témoignage le plus percutant. Alors, depuis le début, on dit quoi? C'était pas une façon de travailler pour un policier. C'était pas dans les valeurs, c'était pas dans les méthodes normalement utilisées. Puis contrairement à ce que dit la défense, c'est pas à cause de ses antécédents médicaux, puis c'est pas parce qu'il a pris trop de drogue. C'est carrément, on l'a étouffé, puis c'est pour ça qu'il est mort. Alors, ça risque d'influencer les membres du jury. Il est 6h22. Véhicule en panne à quel endroit?